Well, good morning. My name is David Kirkham, and had absolutely no idea I was going to be doing this until 30 seconds ago, but so I hope you will just indulge that, although I'm hoping I won't give you too much to indulge, because I'm going to give most of the time to our two panelists, Don Horrocks and Janet Epp Buckingham. Don is from the United Kingdom, head of public affairs for the Evangelical Alliance. He's been head of public affairs for this alliance since 2001 and oversees the Alliance's Theology and Public Policy Advisory Commission, and is a director of the Coalition for Marriage. He's held for 25 years senior positions in commerce and management consultancy and studied for a doctorate in systematic and historical theology and has published a number of books and reports. Don is a Baptist minister and a research associate at the London School of Theology, married and has three children. Which I always like that part. It puts a human face on all of these accomplishments that you have. So, Janet Epp Buckingham is Associate Professor of Political Studies and History, Trinity Western University, and the Director of the Laurentian Leadership Center. Did I say that correctly? Laurentian? Dr. Buckingham is She previously served as director, law and public policy for the Evangelical Fellowship of Canada, and in 1986 received her LLB from Dalhousie University. She clerked for Mr. Justice Barry Strayer of the Federal Court, this is all Canada, keep in mind, from 1986 to 1987. She'd been called to the bar and practiced law in Nova Scotia and Ontario. She completed her LLD at the University of Stellenbosch, South Africa, which I saw that last night, but we never made that connection when we were talking. We're going to have a conference in Stellenbosch this coming year. Did her dissertation comparing religious freedom in Canada and South Africa, which honestly should be fascinating comparison. Her book, Fighting Over God, A Legal and Political History of Religious Freedom in Canada, will be coming out in less than about 6 months, I guess, anyway. And then what isn't written here, so she's working actively to create, may I say this, create a Christian law school in Canada, and perhaps has many insights born of that process. Whether or not you'll be sharing those, I'm not sure. So we'll turn the time to each of you to do an initial presentation and then prepare with some time for all of you to be able to, I hope, respond or post questions to them. Would you go ahead?
You have no objection to the role?
No, thank you. Well, good morning, everybody. Thank you for your inviting me here. It's a great honor to be here. I'm enjoying the conference very much indeed. It's my first time in Salt Lake City. I'm not a lawyer, which may be a good thing. I'm a practitioner. I'm a frontline person. I deal with the day-to-day problems that Christians and other religions are facing, particularly in the United Kingdom. I represent an organization that is itself a representative organization and claims to represent the vast majority of Britain's 2 to 4 million evangelical Christians. We seek to be a voice in national debate, and we seek to engage with government and semi or quasi-government bodies. I mentioned about the Coalition for Marriage on my CV. I was a director, and I'm a director of that organisation, having just been involved with the perennial issue of same-sex marriage, which has just been forced through the British parliamentary system. Today, I'm going to have a very narrow focus, if I may. I want to focus on something that the Evangelical Alliance commissioned last year in the British Parliament, in the UK Parliament. And last year, we worked with members of Parliament to set up a commission. We called it Christians in Parliament, and we produced a report, having taken lots of evidence, called Clearing the Ground. And you can see that it's got the official imprimatur of the UK Parliament, the House of Commons and the House of Lords on it.
J'aimerais vous parler de cette enquête et des résultats qui ont été mis en place, car il y a beaucoup de mythes, de légendes, de savoir si les chrétiens ont des difficultés ou pas dans au Royaume-Uni et de savoir si les chrétiens sont persécutés ou pas. Mais lorsque je rencontre des chrétiens dans d'autres parties du monde, je n'utiliserai pas le mot « persécution » lorsque je parle des gens au Royaume-Uni. Nous avons fait une enquête et un rapport qui a été produit et j'aimerais vous parler du contexte de cette enquête et de vous parler des résultats que nous avons pu trouver l'an passé. Le but de cette enquête était, est-ce que les chrétiens au Royaume-Uni exposés à des problèmes quant à leur foi et quelles sont les causes de ces problèmes et en général, le contexte, est-ce qu'il faut qu'il y ait des changements légaux et sociaux qui doivent être mis en place ou qui se sont passés et qui créent ces problèmes. Donc, les médias ont aussi dit que les chrétiens sont marginalisés au Royaume-Uni. Et les problèmes qui ont été causés, quelles sont les causes de ces problèmes et qu'est-ce qui a été fait quant à ces résultats. Donc, les questions ont été mises en place pour savoir quelles étaient ces difficultés et dans leur vie de tous les jours. Donc, ce n'est pas théorique, mais c'est sur le terrain. Ce sont des événements pratiques. Donc, ils ont voulu identifier les problèmes que les chrétiens devaient faire face et quels étaient les aspects de la législation qui ont créé des épreuves qui sortent, qui grandissent. Ils ont voulu savoir quels changements peuvent être mis en place et encourager les chrétiens dans un sens d'une contribution positive dans la société au lieu de se retirer de la société en tant que chrétien, comme certains pourraient peut-être le dire. Donc, le gouvernement s'est impliqué, un groupe parlementaire a été mis en place et des membres de tous les partis politiques du Royaume-Uni et de groupes religieux. Et nous avons mis en place 3 sessions avec des organisations, des dénominations et des experts. Et les évidences ont été récoltées de 40 groupes principaux. J'ai d'ailleurs les résultats ici avec nous, mais le rapport complet peut être trouvé aussi sur le site de notre site Alliance évangélique. Laissez-moi vous parler du contexte. Les chrétiens au Royaume-Uni ne sont pas persécutés. J'ai une conversation avec un membre du clergé à propos du mariage homosexuel. Et c'est peut-être un peu absurde et je parle d'un membre du gouvernement. Si le gouvernement veut dire que le noir est blanc, il peut le faire. avant d'avoir un débat et sur le mariage entre le mariage homosexuel, nous devons d'abord discuter de qu'est-ce que le mariage. Et ce ministre a dit, mais le mariage, c'est ce que vous voulez. Et donc, cela vous donne un goût un peu dans au contexte dans lequel nous avons dû travailler, où le noir paraît être blanc et l'absurde est considéré comme normal. Et si vous avez un esprit biblique, le bien est appelé mal et le mal est appelé bien. Et les chrétiens en Angleterre, un groupe qui était une minorité, devient maintenant un groupe minoritaire immoral. Et ce n'est pas non plus un groupe contre des pensées immorales, mais ces minorités sont maintenant considérées comme mâles. Et ces groupes minoritaires chrétiens doivent faire face maintenant à des problèmes assez importants. Donc, on vous met sur, on vous placarde sur, on vous placarde une étiquette sur le dos parce que si vous êtes contre le mariage homosexuel, vous êtes homophobe. Si vous êtes contre des idées de l'islam, alors vous êtes raciste et on vous considère comme si vous avez besoin de faire de la thérapie. Et nous avons aussi vu nous avons eu des changements lorsque nous avons parlé du mariage homosexuel. Nous avons parlé d'un vote de conscience alors que cela a été imposé dans notre pays. Il aurait dû y avoir des consultations, mais lorsque les consultations n'étaient pas pour le gouvernement et pour le mariage homosexuel, ils ont simplement décidé de s'opposer à toute pétition ou quoi que ce soit, alors que 52% de la population anglaise était pour cette pétition qui était contre le mariage homosexuel. La même chose s'est passée en Écosse et va se passer en Écosse. Ils ont actuellement le même problème. Les votes ne sont pas rapportés comme ils devraient en fait l'être. Il y a donc un sens de dans certaines de certains niveaux de décision qui n'est pas clair. Et même si nous avons vu le plus grand nombre de pétitions et contre cela a été forcé. Et maintenant, nous devons faire face à une situation très difficile. Et nous avons des élections qui vont arriver bientôt. Et de nombreuses personnes qui étaient pour plus d'idées chrétiennes ont disparu des débats politiques, ont été découragés. Le comité parlementaire a trouvé que selon ce rapport, les chrétiens dans le Royaume-Uni ne sont pas persécutés. De suggérer qu'ils sont qu'ils doivent faire face à la souffrance, à la répression, à l'emprisonnement et à la mort n'est pas vrai. Des vagues de chrétiens dans les tribunaux ne montrent pas que le christianisme est maltraité. Cependant, la fréquence et la nature des cas indiqués montrent une articulation très resserrée de l'espace et des expressions de la croyance chrétienne. Certaines activités légales associées à des campagnes et une couverture médiatique a été exagérée et peut-être contre le rôle positif que joue le christianisme dans la société. Il a donc été trouvé qu'il y a un illettrisme religieux très important où les croyances religieuses sont mal comprises et ainsi restreintes, ce qui vient en fait d'une minimisation culturelle et sociale du christianisme dans la vie publique. Cela a forcé les chrétiens à offrir, à donner des services qui n'auraient peut-être pas pratiqué auparavant. Il y a des exemples très concrets où des chrétiens ont été forcés à être immoraux contre leur conscience à cause des pressions. Par exemple, un prêtre a été rétrogradé parce qu'il a mis une pensée contre le mariage homosexuel sur sa page Facebook. Une femme avait été employée comme une registraire, un chef de service des inscriptions a perdu son travail parce qu'elle ne lui avait pas dit qu'elle devait accepter les documents pour le mariage homosexuel. Il y a des problèmes actuellement. C'est une épreuve, une compréhension pour créer une société qui est plurielle. Et cela contribue à la polarisation entre les chrétiens et la vie publique. La commission a aussi trouvé des choses intéressantes. L'acte d'égalité de 2010 cette enquête a découvert que l'acte d'égalité de 2010 n'a pas en fait rempli cette tâche d'aider les tensions entre les différents groupes et de créer plus d'égalité. Les décisions du tribunal ont relégué les croyances religieuses sous une hiérarchie de droits. La place aussi tous les cas qui sont présentés devant les tribunaux ont quasiment tous perdu lorsqu'ils avaient une question de défense, de protection envers les croyances religieuses. L'organisation dit que si vous ne les amenez pas dans les tribunaux, on ne saura pas ce qui se passe. Cependant, les résultats sont souvent les mêmes. Et ceci, nous essayons de voir ceci de façon stratégique. Est-ce qu'il y a des cas où nous pourrions gagner ces situations dans les tribunaux britanniques? Et il y a des différences d'opinion et le comité a été très important dans ces... Le comité a critiqué les secteurs publics et publics et privés qui n'ont pas aidé les gens à pouvoir respecter les croyances religieuses. La liberté de parole, beaucoup de chrétiens ont été arrêtés dans la rue pour, alors qu'ils prêchaient l'évangile parce que des gens ont été offensés. Et la police s'est sentie... La police doit agir lorsqu'il y a une plainte. Alors, cela devient affaire courante de voir des arrestations de chrétiens. Et nous essayons notre travail et d'essayer de faire comprendre le respect de tous. Et nous trouvons aussi qu'il y a une confusion dans la société au niveau des croyances et du respect des droits. Et donc les recommandations les plus importantes qui sont venues du comité qui dit que le gouvernement doit prendre et mettre en place doit laisser les chrétiens et les autres fois avoir une plus grande confiance dans la liberté et l'expression de leurs croyances. Nous n'avons pas nous parlons de respect, mais je crois que nous parlons simplement d'accommodation. Au lieu de parler de confrontation et de conflit, pourquoi ne parlons-nous pas de médiation, d'une médiation obligatoire, de nous asseoir autour d'une table et de trouver une façon de discuter afin de respecter, afin d'accommoder chacun au lieu de ne pas respecter les autres. Donc ce rapport dit qu'il y a un problème pour les chrétiens au Royaume-Uni, mais que les chrétiens ont aussi une responsabilité et que leur réponse est importante. Et d'autres études ont été mises en place, d'autres commissions ont été établies pour aider les chrétiens avec les autorités gouvernementales afin d'éduquer et de faire comprendre qu'il y a, que l'on peut établir des discussions mutuelles entre des groupes chrétiens. Je vous remercie.
Pour que vous sachiez, je suis marié, j'ai deux enfants. Donc, je vais juste dire que je suis vraiment un être humain avec une famille. C'est intéressant quand même de savoir d'où les gens viennent. Je suis de l'Ontario, qui est la capitale du Canada. Et je suis J'adore la politique. J'aime pas trop m'engager. J'adore regarder la politique. Je voudrais remercier les organisateurs de m'avoir invité en tant que représentante du Canada, en quelque sorte, et discuter les problèmes qui sont en cours au Canada. Le Canada, probablement comme les États-Unis, a beaucoup de religions. Et je crois que la globalisation est quelque chose qui est un sujet qui revient dans cette conférence. Donc le Canada a beaucoup de différents types de religions. Et nous devons donc y travailler quotidiennement à essayer de gérer tout cela. C'est important de regarder ce qui se passe dans différents pays. Et je vais donc structurer ma remarque autour des bénéfices de certains des bénéfices de la religion et le fait que nous avons donc des individus, des organisations qui contribuent énormément à la société du Canada. Les représentants de la Sainte Mère, qui donc représente le, c'est un peu comme le pape dans l'Église catholique, a récemment détaillé aux Nations Unies toutes les écoles, les hôpitaux, les abris, les orphelinats que l'Église catholique fournit. Et en fait, on s'est rendu compte qu'ils ont fourni beaucoup plus que n'importe quel autre État. En fait, à peine 50% de la population du Canada s'identifie comme catholique. Mais les institutions religieuses du Canada fournissent des services contre l'addiction, des abris, des banques alimentaires, des hospices, etc. Et aussi des agences pour le développement international et des endroits de soins pour les réfugiés. Bien sûr, toutes ces religions font que chaque religion a des restrictions qui leur sont propres, parfois restrictions vestimentaires ou diététiques. Le plus souvent, elles sont faciles à accommoder. Par exemple, les musulmans et les juifs ne mangent pas de porc. Ce sont des choses faciles à accommoder. Et au Canada, en général, elles sont accommodées facilement. Le Canada a une protection religieuse pour la liberté religieuse. Nous avons une charte des droits et des libertés qui protège la liberté et la conscience de la religion. Seulement, la charte ne s'applique qu'au gouvernement. Donc, elle ne traite pas vraiment le problème de discrimination individuelle, au niveau individuel. Nous avons donc une législation. Dans la plupart des endroits, on l'appelle l'acte des droits humains, qui interdit la discrimination pour l'emploi, les maisons, etc. Le Canada est un pays fédéral avec 10 provinces. L'une de ces provinces, la province du Québec, a passé les 10 dernières années à parler de ce qu'ils appellent l'accommodation raisonnable. Après quelques cas très connus, où des minorités ont demandé à être accommodées, le gouvernement du Québec a créé un comité donc pour gérer tout cela. Le souci était que la fondation de la vie collective était maltraitée par toutes ces accommodations. Par exemple, il y a eu le cas d'une école orthodoxe juive qui avait demandé aux salles de sport avoisinantes de mettre des glaces teintées sur leur bâtiment parce qu'ils ne voulaient pas que leurs élèves regardent les femmes faire leurs exercices, donc dans leurs vêtements d'exercice. Ils avaient remarqué même que les enfants s'alignaient le long du mur avoisinant les salles de gym pour regarder les femmes donc faire leurs exercices. Donc, ça a fait beaucoup de bruit dans les médias. Ils ont trouvé une résolution, finalement, mais je crois en fait que l'école juive a fini par mettre une clôture à travers laquelle on ne pouvait pas regarder. Il y a également eu le cas d'un groupe musulman qui a demandé à ce qu'un restaurant de petit déjeuner fournisse des saucisses sans porc. Et ils ont demandé si on amène nos saucisses, est-ce que le restaurant pourrait cuire ses saucisses, donc approuvé par les musulmans. Et la perception était que c'était une demande donc pour changer le menu pour tous les consommateurs et les clients. Donc ça fait aussi beaucoup de bruit dans les médias. La commission Bouchard-Taylor, qui a fait rapport en 2008, a fait rapport donc du fait que beaucoup de ces cas ont été beaucoup plus dramatisés que nécessaire par les médias et qu'en fait ils ont tous été résolus. Et la commission a recommandé que ce genre de dialogue en fait est le meilleur moyen de résoudre ces problèmes d'accommodation raisonnable. Plutôt que d'adopter ce genre d'approche de conciliation, le gouvernement Québec actuel s'est bâti donc sur les peurs de la culture francophone du Québec et a fait campagne en 2012 contre cette tendance donc avec pour but d'établir une charte séculaire pour protéger la société contre les incursions sur la culture dominante. Donc en août de cette année, ils ont publié leur proposition d'interdire le port d'habits à connotation religieuse par tout travailleur du gouvernement ou toute personne recevant des services du gouvernement. Donc, bien sûr, ça interdit le port du kippa pour les juifs, et il y a beaucoup de juifs au Québec, ou de la hijab pour les femmes musulmanes, et du turban pour les hommes sikhs. Donc, apparemment, le Québec a regardé l'exemple de la France et de la Suisse pour décider de comment traiter leurs minorités. Beaucoup de personnes se sont opposées à cette proposition, des commentateurs de télévision et de radio ont pensé plutôt que c'était quelque chose que tout le Canada devrait adopter pour minimiser les conflits dans la société pour ceux qui ne portent pas de vêtements à connotation religieuse. Mais le Canada a été formé par des immigrants. À travers son histoire, le Canada a ouvert ses portes à l'immigration. Et donc, il n'est pas... On ne peut pas obliger ces gens donc à cacher leur identité. Beaucoup de ces conflits ont fini au tribunal. Au Canada, Donc une femme musulmane a accusé deux hommes de l'avoir attaqué sexuellement. C'était des hommes qui appartenaient à sa famille. Donc c'était donc une victime dans un cas criminel. Elle a dit, pourquoi est-ce que je devrais retirer mes vêtements pour témoigner? Donc ça met les choses sous une lumière différente, parce que beaucoup de personnes, moi-même incluse, sont mal à l'aise face à une personne qui se voile le visage. Mais on pense donc que si on peut voir le visage d'un accusateur ou d'une victime, on peut lire leurs émotions, voir s'ils mentent, etc. Mais les deux accusés donc savaient que cette personne n'allait pas témoigner sans son voile, et ça en fait servait leur but. Donc c'est allé jusqu'à la Suprême Cour du Canada, ce cas, qui n'a pas décidé en fait de ce qui devait se passer, mais qui a donné des directives pour les juges du procès. Donc quand c'est arrivé au niveau du procès, le même juge a fait la même décision que celle qu'il avait prise la première fois, la décision que la femme devait retirer son niqab, donc pour témoigner. Et c'est toujours un cas en discussion. Mais je voudrais maintenant parler d'autres groupes religieux donc au Canada. Un groupe que l'on appelle Utterian Brethren, les frères utériens au Canada, un groupe qui habite dans des fermes qu'ils appellent des colonies. Ils sont pacifistes et éduquent eux-mêmes leurs propres enfants. Ils ont été marginalisés au cours des années. Et récemment, l'une de ces colonies a été obligée, donc, en fait, une des colonies refusait d'avoir des photos sur les permis de conduire, parce qu'ils ne croient pas, c'est la communauté des utérites, donc ils ne croient pas que, ils ne refusent d'être pris en photo, en fait. La province d'Alberta, donc, avait une exemption, en fait, mais on demandait qu'elle soit retirée. Et la Cour suprême du Canada a dénié donc le défi en 2009 sur la base que la sécurité du système de permis de conduire est plus importante que les soucis religieux. L'Université de Trinité une proposition qui a fait beaucoup de bruit, parce que nous avons donc un code d'honneur qui défie le mariage comme étant entre un homme et une femme. Au Canada, le mariage de personnes de même sexe a été légalisé. La législation a en fait changé la définition du mariage, mais nous avons ressenti que nous pouvions maintenir la définition du mariage, la définition religieuse du mariage, mais les opposants à notre proposition ont pensé que c'était une proposition discriminatoire et qui n'était pas appropriée pour qui n'était pas appropriée pour des étudiants de droit. C'est quelque chose, un sujet sur lequel je pourrais parler beaucoup. Donc l'université s'est battue devant des tribunaux, et on lui a refusé d'abord l'accréditation pour son programme d'éducation. Et il a fallu aller jusqu'à la Cour suprême du Canada. Et en 2001, la Cour a décidé qu'une université privée et religieuse pouvait mettre en place des principes chrétiens au sein de l'université sans être en contradiction avec l'intérêt du public. Il y a un cas aussi dans les cours du Québec, dans les années 60. Les écoles dans cette province du Canada, du Québec, étaient soit protestantes, soit chrétiennes, enfin catholiques. Donc le Québec a institué un nouveau programme pour l'éducation religieuse qu'on appelle un cours de religion et qui témoignait, qui enseignait tout un tas donc de religions du monde. C'était un cours qui a été mal vu par certains parents qui le voyaient comme une menace contre l'instruction religieuse que les enfants recevaient à l'école. Il y a eu deux décisions. La première par la Cour suprême du Canada qui a décidé que dans les écoles publiques, les enfants ne peuvent pas être exemptés de ce cours même si les parents pensent que ça viole leur droit, leur liberté religieuse. Donc, tous les enfants sont requis donc de prendre cette classe, de suivre cette classe. Le deuxième cas est celui d'une école romaine catholique, catholique romaine. Tous les enfants donc ces écoles n'enseignaient pas ce curriculum et le gouvernement donc a donc décidé qu'elles devaient enseigner le curriculum donc mis en place par l'État. Donc dans les deux cas, la Cour suprême a pris des décisions à l'encontre des écoles. Nous avons des mécanismes pour gérer les libertés religieuses au Canada. Mais nous ne pouvons pas être sûrs que ces libertés soient protégées à chaque fois. Il y a une pression constante pour les adhérents, donc des religieux. La pression de suivre les valeurs canadiennes, comme on les appelle, qui sont bien sûr séculaires. Merci.
Je vous remercie, Dr. Rox et Dr. Buckingham. Nous allons pouvoir poser des questions. Vous avez un micro et je vous demande d'utiliser le micro pour poser vos questions afin que les interprètes puissent les traduire. Il y a des discussions à propos de problèmes religion. Est-ce qu'ils peuvent être des problèmes d'expression au lieu de problèmes de... Est-ce que ce sont des pratiques religieuses ou ce sont des expressions religieuses? Alors, la différence entre pratique et croyance. Des pratiques afin de... Qu'est-ce que vous pensez de cette idée entre la pratique et la croyance?
Est-ce que je peux répondre d'abord? Je crois que... On a des micros. Ah, OK. Je ne sais pas trop comment répondre à cette question. Je ne sais pas si légalement on est très clair. En fait, on a eu deux cas ce qui concerne le port des symboles religieux. Et il y en a un, par exemple, très connu, le Widow Case, où un chrétien coptique portait sa croix, une croix, et donc dans British Airways, et on lui interdisait, donc c'est un cas qu'elle a gagné en fait finalement. Il y a eu un autre cas où une infirmière a dû retirer sa croix parce qu'on lui a dit que c'était un problème de santé. Elle a perdu son cas. Donc, je crois que les messages sont pas très clairs. Ce que je pense, moi, c'est que on pensait pas qu'en fait elle aurait dû aller en procès parce que on pensait que c'est quand même une question importante. On peut pas se permettre d'avoir une croix comme ça. Mettre en difficulté des opérations ou des soins médicaux. Donc ça paraissait évident. Certains groupes chrétiens ne pensent pas que le port de la croix soit si important. Donc ça ne veut pas dire que certains ne croient pas que ce soit important. Certains le pensent, mais les vues diffèrent. Donc, je pense que ce sont des questions périphériques. Je suis plutôt intéressé par les questions de conscience, les questions d'ordre moral. Et ça veut dire que les questions de savoir si on se plie donc aux tendances, par exemple, si on est les gens forcés à se plier aux tendances plutôt que de perdre leurs emplois. Donc, certains pensent avoir des droits qu'ils peuvent comme cela imposer à travers des procès, mais ce n'est pas toujours le cas. Il est très difficile de savoir quels sont les principes clés pour nous.
Une des situations intéressantes au Québec est les symboles religieux qui sont portés au Québec, mais qui ne sont pas religieux, qui sont à la mode. De porter, par exemple, un crucifix ou... La roseraie, de porter la roseraie en collier. Mais si vous portez la roseraie et ce n'est pas un symbole religieux, est-ce que vous devez alors l'enlever? Si la religion est devenue un droit secondaire, et je crois que ce qui a été un thème dans le tribunal canadien et européen, La liberté d'expression doit être un droit respecté. Et il est important d'apporter nos arguments à la table. Mais il y aura différents problèmes qui vont être abordés dans le tribunal. On risque de protéger vos droits sous le nom de la religion ou pas, ou sous le nom de l'expression, selon la situation. Mais il y a beaucoup d'exemples, et ces exemples peuvent mettre en place des codes ou des lois qui, pour de futures situations.
Okay, thank you very much.
Merci beaucoup. Donc, nous parlons de l'égalité religieuse et Quelle est la frontière légale, la frontière de l'expression religieuse, par exemple? Est-ce que la liberté religieuse doit entrer dans l'étendue des questions légales? Et quelle est donc la frontière, l'équilibre critique quand il s'agit donc de la liberté religieuse? Quelle est la frontière dans le système du pays? Est-ce que vous pourriez aussi exprimer vos sentiments sur ces activités, si vous me comprenez bien? Je ne suis pas certain d'avoir compris la question. Je pense que, de mon point de vue de chrétien, nous participons à des tables rondes avec des gens avec qui nous n'aurions pas parlé il y a quelques années. Par exemple, j'ai un très bon exemple en ce qui concerne la législation du mariage homosexuel. Les musulmans donc recherchent l'opinion des chrétiens. En fait, toutes les dénominations principales se sont réunies et ont signé des pétitions. Je suis allé dans des mosquées pour aller demander à leur congrégation de signer une pétition que nous-mêmes avions mise en place. Donc, en fait, je m'aperçois que de plus en plus, il y a la perception d'un ennemi commun, qui nous rassemble, des gens qui n'ont peut-être pas la même opinion sur leur raison d'opposer les tendances, mais qui perçoivent qu'il y a en fait une menace commune à leur liberté commune, mutuelle. En fait, je crois que c'est une bonne chose parce que nous le voyons de plus en plus dans le Royaume-Uni, parmi des groupes qui ne se parlaient même pas il y a 5 ans. Donc je crois que c'est très important et significatif. Et je crois que l'autorité reconnaît l'importance de travailler comme ça à travers les dénominations différentes. Et je crois que ça nous oblige à réfléchir à notre position et ce que nous pouvons faire pour travailler avec les autres dénominations. Et les gouvernements aiment travailler ou gérer un groupe plutôt que d'aller trouver différents groupes. Et donc, ils aiment le fait qu'ils font face à un groupe qui partage donc ces mêmes opinions. Est-ce que ça répond à votre question? C'est la question la plus brève que je peux donner, mais je serais heureux de vous parler plus tard, si vous voulez.
Je suis d'accord avec Don. Je crois que les religions au Canada ont moins de problèmes. On a moins de problèmes entre les religions avec l'impact du sécularisme, dans le sens où toutes les religions sont restreintes de façon différente. J'ai vu aussi du travail entre les religions, par exemple sur la charte du Québec, où les chrétiens aident les sikhs et les musulmans. Parce qu'ils essayent de leur faire comprendre que si les droits des chrétiens sont perdus, alors les droits des autres sont aussi diminués. Pour aller un peu plus loin dans cette discussion, est-ce qu'il y a un risque de polarisation extrême d'avoir seulement deux côtés, c'est-à-dire toutes les religions d'un côté est-ce que vous croyez que cela peut créer des problèmes? Quand vous dites ennemi commun, nous asseyons avec des gens avec qui nous ne sommes jamais assis. nous ont pensé, ah, ils se sont assis avec, le groupe gay et lesbienne. Mais quand je parle d'ennemis communs, je parle d'une perception qui s'unit, qui unit des groupes ensemble contre des perceptions je pense que l'ennemi commun est le sécularisme. Je crois qu'il y a un agenda séculariste en Grande-Bretagne ainsi qu'au Canada et en Grande-Bretagne ainsi que dans le monde entier. Et c'est de plus en plus agressif depuis les dix dernières années. Dans le sens où, bien qu'ils veulent travailler avec les croyances, avec les groupes religieux, et nous travaillons avec eux, nous les rencontrons, nous asseyons avec eux, nous discutons. Et en fait, même au Royaume-Uni, les organisations sécularistes sont en fait des organismes qui sont considérés selon la loi religieuse. Et donc, ce sont des systèmes de discussion gouvernementale qui influent les groupes religieux. Et je crois que cela crée des débats très intéressants, car parfois, c'est très contradictoire, avec des conversations qui vont nulle part. Car si vous allez sur le site, sur notre site Internet, vous verrez que leur seul objectif que ces groupes veulent, selon leur site, veulent retirer toutes les croyances, les pratiques, toutes les expressions de la vie publique. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de groupes qui s'impliquent dans le système éducatif afin de faire disparaître toutes les écoles au Royaume-Uni qui ont été fondées sur des principes religieux. Il y a donc une perception qu'il y a un ennemi commun. Et vous vous engagez dans cette situation avec des groupes gouvernementaux. Je suis sur l'Organisation des droits de l'homme. Je suis membre d'un groupe, l'égalité des droits de l'homme. Et ce groupe est très critiqué parce que ce groupe n'a fait absolument rien sur les croyances religieuses pour articuler ou mettre en place des chartes ou systèmes afin de faire comprendre les croyances et les respects religieux. Alors je crois qu'il y a encore beaucoup de travail au Royaume-Uni pour mettre en place la fondation afin d'avoir des discussions intéressantes.
Pour revenir à la situation du Québec, je pense que c'est un débat très polarisé, donc dès le départ. Il sera intéressant de voir ce qu'il en adviendra. Et je crois que dans ce contexte particulièrement, certains groupes religieux ont dû s'associer à d'autres, notamment l'Église catholique romaine. Parce que, en fait, oui, on peut avoir un crucifix dans un tribunal. Les bonnes sœurs peuvent continuer de porter le voile, mais donc c'est un peu délicat. Il y a une autre situation où je crois que les variétés de religion marchent ensemble. Il y a eu un cas. Une personne voulait
pas avoir d'événements civiques qui commençaient donc par une prière. Et certains groupes religieux sont associés pour s'associer et se sont présentés au gouvernement pour dire et si on avait des prières un peu plus globales. Et donc ça en fait fournit une alternative la question de savoir si on allait avoir une prière chrétienne ou pas de prière, en fait, on a trouvé la solution d'avoir des prières qui incluraient un plus grand nombre de croyances.
J'aimerais remercier nos orateurs. Je crois que nous allons aller manger. Et si vous avez une invitation, si vous êtes un délégué, vous avez été invité et que vous allez venir avec nous, il me semble que donc tous les délégués viendront manger avec nous. Nous allons au centre Hinckley, qui est de l'autre côté du campus. Je ne sais pas où nous devons nous retrouver. Est-ce que vous savez? Donc nous commençons le déjeuner à 12:15 et c'est ce n'est pas vraiment le moment de discuter car cela prend environ 10 minutes pour aller jusqu'au centre Hinckley. Donc vous pouvez discuter en marchant. Merci.